deux mots avant de donner la parole à notre invité. Tout le monde connaît le Récantou, tout le monde connaît l'Après, plus ou moins, l'association qui organise des soirées, peut-être, non ? Un mot, bon, juste très vite. Bon, je ne vais pas mobiliser la parole. L'Après, c'est une association, vous avez d'ailleurs les flyers qui donnent le programme des soirées qu'on organise, qui est à l'origine de la création du Récantou. L'Après existait avant le Récantou. L'Après, c'est une association culturelle et écologique qui s'intéresse aux deux aspects de la culture, c'est-à-dire celle de l'esprit, mais celle aussi qui nous nourrit. Et avant que le Récantou existe, on organisait déjà sur les droits, sur le féminisme, sur l'écologie, sur les sans-papiers, on organisait des débats dans Toulouse. Et puis, on s'est intéressé aussi, parce qu'on avait dans nos réseaux des faucheurs d'OGM, on a lié des liens très forts avec des paysans de Midi-Pyrénées, et petit à petit, on a commencé à avoir envie de relocaliser l'économie, de faire venir des paniers paysans, qu'on a fait venir déjà à l'époque, hein, donc dans Toulouse, etc. Et on avait de tels liens intéressants avec tous ces paysans, qu'on les a incités à ouvrir un lieu de vente directe. Et ils étaient tous à ne pas se connaître en Midi-Pyrénées. Et c'est l'Après qui était sur Toulouse qui a réussi à faire la cheville ouvrière de tout ça. Donc, en 2011, fin 2011, on a réussi ce challenge à ouvrir l'Après, qui est une coopérative agricole. Et dans la coopérative agricole, il n'y a pas que des paysans, puisqu'il y a, c'est autorisé, c'est la loi, c'est permis, il y a des paysans fondateurs qui en font partie. De l'autre côté, je dirais, il y a un libraire, qui est la librairie Floury, donc il y a ses livres ici, donc c'est les deux volets culture et culture, et il y a une association qui est l'Après, qui faisait un peu, qui fait toujours l'interface entre les deux cultures. Et donc, comme on avait incité à la création de ce lieu, nous, on habite ce lieu le soir pour des rencontres, des débats, de la musique, des présentations de bouquins, tout ça. Là, vous êtes tous là pour... voilà, en gros, pour l'Après. Hein. Vous êtes tous là, vous savez pourquoi, on va parler de permaculture. On était presque sur un mini-cycle, là, parce que récemment, on a eu un producteur du Récantou, qui est un vigneron, qui s'appelle Rémi Kunz, qui est venu nous parler de son vin, de sa philosophie de la vie, du vin, de la vigne, etc. On a eu ensuite aussi celui qui vend le miel au Récantou, qui est du Tarn, comme Rémi Kunz, comme le vigneron. Et ce soir, vous êtes venu pour écouter Luc Morin, qui est producteur et qui est en permaculture, donc, et qui lui aussi est du Tarn.
Je suis dans le Tarn.
Il est dans le Tarn. Et donc, depuis l'été dernier, quoi, depuis le printemps dernier,
non,
il y a un an.
Je suis dans le Tarn.
Non, depuis un an.
Que je livre, oui.
Tu livres tes...
l'été, juillet dernier.
Voilà, depuis l'été dernier, il a ses produits au Récantou. Alors, ce qu'on l'a invité ce soir, parce que en plus que d'être un producteur du Récantou, donc ça nous intéresse, en plus, ça nous intéresse globalement de savoir ce qu'est la permaculture, il va nous expliquer ça, de savoir pourquoi il s'est engagé sur la permaculture, ça nous intéresse aussi, de savoir s'il a toujours été paysan, producteur, ou si c'est un autre cheminement, ça nous intéresse aussi, les parcours de vie aussi. Page blanche,
pas.
Et puis après, je suppose que vous allez avoir la parole, poser des questions, il ne faut pas hésiter.
Juste, on commence par...
Vas-y. Oui, non, juste ce qu'allait ajouter François, c'est qu'on va discuter, on va se rencontrer, on va échanger. Après, on finit toujours de façon conviviale, c'est-à-dire qu'on a des verres de vin blanc et rouge bio, du jus de raisin... qu'on offre pour 2 euros pour l'association, on boit un coup et on vous offre quelques produits à l'apéro pour déguster gratuitement, par contre des produits du Récantou pour agrémenter les verres de vin, pour ceux qui le souhaitent après. Voilà.
tout est dit.
J'ai oublié, on laisse la parole. D'abord, merci de m'avoir invité, de me permettre de pouvoir parler un petit peu de mon activité en tant que producteur. Et je vais essayer de vous donner quelques notions sur la permaculture, puisque je travaille effectivement dans ce domaine. Alors, il y a le terme de permaculture, mais je pourrais aussi employer le terme d'agroforesterie, maraîchage sur petite surface, parce que je suis vraiment sur une toute petite surface par rapport à un maraîcher traditionnel et même un maraîcher bio traditionnel. Souvent, un maraîcher bio traditionnel, ils ont facilement 2 hectares, 2 hectares ou plus. Hein. Moi, je vais faire passer des photos au fur et à mesure. Voilà en gros la parcelle sur laquelle je travaille. Vous voyez que c'est quand même petit. Hein. Alors, même si là, je suis sur une extension de la parcelle qui va doubler, donc là, on a entre 1500 et 2000 m². Donc c'est vraiment tout petit. Donc le fait de travailler sur une toute petite surface, ça entraîne des techniques qui sont différentes de celles d'un maraîchage classique, par exemple. Par exemple, je n'ai pas de tracteur. J'ai un motoculteur dont je me sers, mais pas toujours. Je vous expliquerai plus tard pourquoi effectivement je n'utilise pas forcément tout le temps le motoculteur. Donc maraîchage sur petite surface et un autre terme aussi qui est de plus en plus utilisé. Maraîchage sur sol vivant. C'est très important dans la permaculture, c'est justement essayer de maintenir le sol vivant. Voilà. Donc après, je vais développer sur ces points. Alors après, une petite présentation, peut-être. Donc ça fait 3 ans que je suis installé là-bas. Donc j'essaye tant que mal de produire mes légumes à l'année. Alors la difficulté quand on commence, c'est effectivement d'avoir une production, c'est pas de produire, mais c'est de produire de façon très régulière sur l'année. Donc là, effectivement, pas livré depuis un petit moment dans la pâtisserie, parce que je n'ai pas assez effectivement pour livrer. Alors, mon parcours de vie, il est très. Je n'ai pas toujours été paysan, non, loin de là. Donc, j'étais pendant 20 ans professeur, ce qui n'a rien à voir, professeur dans le secondaire. Donc, 10 ans prof en collège et 10 ans prof au lycée. Donc, vous voyez, c'est ce qui s'appelle vraiment.
Basculer dans une autre vie.
Oui, complètement basculer dans une autre vie. Alors, qu'est-ce qui a fait ? Bon, les raisons pour lesquelles j'ai quitté l'enseignement sont très nombreuses. Je pense que c'est trop long de développer là. Pourquoi je me suis tourné vers la permaculture ? Pourquoi, par exemple, je ne suis pas devenu un maraîcher bio classique ? J'aurais pu très bien, effectivement, faire du maraîchage bio, mais de façon plus classique, avec un tracteur, etc. Pourquoi je ne me suis pas spécialisé dans la culture de la tomate ? Ou pourquoi, etc. Donc, ce qui m'a intéressé dans la permaculture, c'est qu'on va travailler avec un écosystème. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'envisager les choses dans une globalité. Et moi qui viens de l'enseignement où tout est cloisonné, où chacun enseigne dans sa discipline, je pense que j'ai tout fait un petit peu dans ce milieu. Et l'idée justement de pouvoir tout envisager dans la globalité m'a paru absolument passionnante. Donc, oui, en tant qu'astite, oui, c'est vrai que j'aurais pu trouver mon compte. Voilà, donc un des intérêts de la permaculture, c'est justement de ne pas cloisonner les choses. Donc, c'est-à-dire, on va travailler sur un écosystème. Donc, un écosystème, c'est un système qui est complexe. Et plus le système sera complexe, la productivité et les intérêts qu'on va trouver à la permaculture seront grands. Donc une permaculture, ça ne se construit pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors j'en suis encore au début, mais ça se construit pour qu'effectivement on en tire vraiment beaucoup de bénéfices sur plutôt 10, 15, voire plus. Voilà. Donc, ce qui m'a attiré vers ce domaine, c'est bon, certes le retour à la nature, etc. Peut-être aussi donc la permaculture, c'est aussi une autre philosophie de la vie, c'est une autre façon de voir la société, donc se couper un petit peu aussi peut-être de la société de consommation, donc voir les choses autrement. Retour à la nature, c'est évident, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui ont fait que vraiment je me suis senti attiré par ce domaine. Voilà. Alors après, pourquoi la permaculture est-elle très importante de nos jours ? Alors, on pourrait parler d'agroforesterie, etc. Une réaction, vous voulez réagir, monsieur ?
Oui, non, j'intègre les permacultures, quid ? permaculture. Quelle est...
Je définis, d'accord.
Voilà, c'est ça.
Alors, permaculture, on peut parler aussi d'agroforesterie. Alors, permaculture, le terme même, oui. Donc ça a été inventé par deux Australiens dans les années 70. Hein, permaculture, c'est le livre qui est sorti en 1978. Bill Mollison, David Hongley. Bill Mollison est mort il y a deux ou trois ans. Donc, ceux qui ont inventé ce concept, donc ça vient de contraction de permanente agriculture, agriculture permanente. Voilà. Et dans ce livre, par exemple, il n'aborde pas la culture annuelle. Il n'aborde que la culture des plantes vivaces, ce qui explique un petit peu l'idée de l'agriculture permanente, c'est-à-dire créer un système où tout est permanent. D'accord ? Donc, même au niveau légumes, il y a des légumes vivaces qui ne sont quasiment pas utilisés, commercialisés. Il y a des poireaux perpétuels, vous avez... il y a pas mal de légumes vivaces. L'intérêt du légume vivace... La plante vivace en général et du légume vivace, c'est qu'il demande, une fois qu'il est planté, peu d'entretien. C'est-à-dire qu'il va pousser, il est très peu sensible aux maladies. S'il est vivace, c'est qu'il a appris justement à se défendre contre la plupart des maladies, donc il est plus ou moins indépendant. Donc le temps qu'on va gagner, on a planté toutes ces plantes, ça va ménager du temps pour faire autre chose. Voilà. Après, la permaculture peut très bien se pratiquer avec des légumes saisonniers, enfin des légumes plantes annuelles. Donc voilà, après l'enjeu de la permaculture, tel qu'ils le définissent dans ce livre, c'est dès les années 70, ils avaient tout à fait conscience que l'énergie fossile allait disparaître et qu'il fallait à un moment donné se passer effectivement de pétrole et qu'on ne pouvait plus continuer à produire avec force de pétrole, etc. Donc c'est l'idée de se passer de se passer au maximum, hein, d'où l'idée que le tracteur est absent de la permaculture. Se passer de ces énergies. Et l'autre idée forte, me semble-t-il, c'est l'idée d'autosuffisance. C'est-à-dire, alors l'autosuffisance peut se comprendre aussi bien dans le domaine familial, personnel, sur le plan municipal, sur le plan régional, sur le plan national, etc. Donc ça va, vous en rendez compte, à l'encontre effectivement de l'agriculture conventionnelle, où aucune région n'est autosuffisante en agriculture, aucune commune n'est autosuffisante au niveau de production. Alors là où ça peut se retrouver plus facilement, c'est à l'intérieur de la famille, par exemple. Si une famille qui possède 200 ou 300 mètres carrés, en pratiquant la permaculture de façon assidue, mais comme il faut, peut tout à fait être autosuffisante en légumes pour toute l'année, sans aucun problème. Donc voilà, l'idée c'était d'être autosuffisant, alors au niveau alimentaire, mais c'est aussi, alors ils développent énormément de techniques dans leurs livres, ça peut être au niveau énergétique aussi, donc comment se passer d'électricité pour chauffer sa maison, etc. Voilà, donc ça c'est des éléments de la permaculture. Une notion très importante de la permaculture, c'est la notion de design. En anglais, donc design, ça veut dire plus ou moins face à un site qu'on va habiter, ou moi face à une parcelle que je vais cultiver, je vais me poser la question comment je vais organiser mes différentes cultures pour tirer le maximum de profit de cet endroit-là, qui est fait comme il est fait. Ça peut être un terrain plat, ça peut être un terrain en pente, ça peut être un terrain où il y a des arbres qui vont masquer le soleil une partie de la journée, ça peut être la proximité d'un plan d'eau, etc. Donc face à un site, la question lui-même, alors l'auteur de ce livre disait même, le mieux c'est de s'installer pendant un an sur la surface, ne rien faire, simplement observer ce qui se passe. Et c'est vrai que simplement en observant ce qui se passe, on apprend énormément de choses. Et moi, effectivement, il y a des choses que je n'avais pas perçues la première année, que j'ai perçues l'année suivante, par exemple, parce que par exemple sur ma surface, sur la photo, d'un côté il y a beaucoup de peupliers, de l'autre côté il y a trois platanes immenses. Ça veut dire qu'au niveau de l'ombre, c'est un petit peu problématique, surtout en automne. Voilà, donc le design, c'est aussi comment intégrer les différents éléments à l'intérieur de ce système complexe. Parce qu'il y a les plantes qui vont intervenir, mais aussi les animaux. Bon, moi, ce n'est pas le cas, pour l'instant, je n'ai pas d'animaux. Mais, par exemple, mettons que je dois y avoir des poules. Donc je ne sais pas simplement créer un poulailler n'importe où, au hasard, et puis élever des poules. C'est bien plus complexe que ça dans la permaculture. C'est-à-dire, je vais me poser les questions, quels sont les besoins de la poule, Et qu'est-ce qu'elle peut me rapporter? Donc le poulet, elle peut rapporter beaucoup de choses, elle peut rapporter de la viande, elle peut rapporter des œufs, elle peut rapporter la façon dont il développe. Il développe tout autour de la poule, toute une ligne de pages, où justement il montre les fonctions de la poule et l'intérêt qu'on peut en retirer. Donc évidemment, la poule aussi, c'est des excréments qui vont servir à etc. Donc, tout ça, c'est connu, mais c'est des questions qu'il faut se poser. Il donne un autre exemple, c'est de créer une serre qu'on va faire attenante à la maison. Donc c'est aussi un moyen de chauffer la maison, hein, ça c'est relativement connu. Mais à un moment donné où il n'y a pas assez de soleil dans l'année, prévoir un espace où les poules vont pouvoir circuler, en mettant peut-être les plantes à l'abri, mais vont pouvoir elles-mêmes chauffer la serre. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire pour justement mettre en relation tous ces éléments au sein d'un système qu'il faut que ce soit un système vraiment complexe. Voilà. Donc, en gros, voilà, autosuffisance au sein d'un système complexe, un écosystème qu'on va essayer de créer, d'améliorer, qui va s'améliorer normalement au fil des années. Voilà, donc, ça c'est pour la présentation de la permaculture. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette simple... Oui.
Par rapport à ça...
Parle fort.
Oui. Tu disais... tu as parlé de ta surface qui était...
Qui est petite, oui.
Est-ce qu'en permaculture, il y a une... raisonnablement, on peut imaginer une taille maximum, ne pas dépasser pour rester dans un équilibre...
Alors ça dépend, effectivement, combien de personnes travaillent sur la parcelle, voilà, oui. Alors il y a des chiffres qui sont tombés, mais qui sont... Bon, alors, un des modèles en France, c'est la ferme du Bec-et-Loire. Peut-être certains ont entendu parler, en Normandie. La référence en permaculture française. Donc, les chiffres sont faussés parce qu'ils ont des stagiaires toute l'année qui fournissent quand même une bonne partie du travail. Mais donc, une personne de l'INRA est venue sur cette surface, et ils ont resté pendant 3-4 ans, ils ont fait des enquêtes, ils ont analysé, et ils ont estimé combien on pouvait produire sur cette surface. Alors ça paraît complètement hallucinant, mais effectivement, alors je crois qu'ils ont ils dégagent un chiffre d'affaires de plus de 50 000 euros par an. Sur une surface qui est, je ne sais plus si c'est 2000 m2 ou... Donc, mais eux, ils pratiquent quand même ce qui est une sorte d'agriculture micro-intensive quand même. Parce qu'effectivement, dans la rotation des cultures, ils sont extrêmement au point. Effectivement, pour arriver à produire autant sur une aussi petite surface, il faut des techniques, il faut être vraiment au point sur des techniques qui sont très pointues.
Plus d'ailleurs que toute autre donc, forme classique.
Tout à fait. Donc, le lieu commun qu'il faut éviter, c'est qu'on a. Bon, on n'arrête pas de nous dire effectivement, l'agriculture actuelle, conventionnelle, produit beaucoup plus qu'autrefois, elle est très productive, etc. Parce qu'on a des machines et qu'on a des champs qui sont bien plus grands. Et donc, oui, effectivement, en quantité, on produit plus, ça c'est sûr. Mais la productivité ramenée par exemple au mètre carré ou à l'hectare, il est bien inférieur à ce qu'on va pouvoir faire en permaculture. Et l'autre problème que ça pose, c'est par rapport à la... Alors certes, on produit beaucoup, mais à quel prix? C'est-à-dire, pour produire, je sais pas, un kilo de carottes, il va falloir dépenser combien en énergie fossile. Parce que le problème, c'est effectivement... C'est ça. Donc il y a des enquêtes qui ont été faites ramenant l'énergie fossile à des calories. Donc, effectivement, c'est une forme de calories, au fait de bouler de l'essence, de consommer de l'essence et des calories. On se rapporte cette énergie fossile dépensée dans l'agriculture conventionnelle actuelle en calories pour produire une calorie alimentaire. Je crois le chiffre, je n'ai pas le chiffre exact, mais il est plus de 10. C'est-à-dire qu'il faut plus de calories en énergie fossile pour produire une calorie en alimentaire, carottes, pommes, ce qu'on veut. Et ça, depuis ça s'est accentué depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on avait un rapport qui était bien plus intéressant avant la Deuxième Guerre mondiale, quand il n'y avait pas toute cette énergie, toute cette agriculture extensive, etc.
Là, on ne parle pas de l'épuisement des sols, en plus.
Et donc, en plus, voilà. Donc, on pourrait passer en revue les gros problèmes de l'agriculture conventionnelle. C'est bon, certains éléments. Donc, Philippe parle d'épuisement des sols. J'ai pris une photo avec moi. Date d'aujourd'hui. Donc, j'allais me promener, j'ai vu ce sol. Et ce sol, moi, ça me catastrophe de voir un sol comme ça. J'ai une photo aussi. Notamment parce qu'on voit au premier plan.
Ils ont été cramés. Ça a été
désherbé avec des produits. Voilà. Hein. Dans des herbes rouges comme ça, c'est pas du tout naturel. Jaune, et on en voit pas mal de gens comme ça. Encore des gens qui font ça. Bon, l'autre problème, c'est la couleur de la terre. Une terre presque blanche, pâle, et j'aurais pu trouver autre que ça. Pâle, donc ça veut dire que c'est une terre sans humus. Complètement, il n'y a plus d'humus. Donc c'est une terre qui est morte. Terre morte, et l'agriculture conventionnelle fonctionne comme ça, sur des terres mortes. Donc comment ça se fait que les plantes poussent sur des terres mortes? Ça veut dire que la terre, du coup, n'est plus qu'une sorte de réceptacle, un support pour la plante, mais pas un lieu de vie. Et donc ça pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire une plante qui pousse dans une terre comme ça, elle va être hypersensible à toutes les maladies. C'est-à-dire elle n'a rien pour se défendre. Parce qu'une plante, pour se défendre, elle a besoin d'un écosystème autour d'elle. Et là, il n'existe pas l'écosystème. Donc la plante hyper fragile, donc il faut la traiter pour qu'elle ne soit pas malade. Vous voyez, c'est une sorte de... c'est un cercle vicieux. Voilà, donc en plus des terres qui sont tassées. Et le problème, c'est le labour très profond. Donc le labour très profond, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la vie du sol. Parce que si vous allez en forêt, si vous promenez dans la nature, vous prenez une bêche, vous enlevez les 30 premiers centimètres, la bonne terre, elle se trouve sur les à peu près 15 premiers centimètres, 15-20 premiers centimètres. Terre noire, humifère. Voilà. Après, c'est différent. Donc quand un tracteur passe là-dessus, il détruit toute la vie du sol, l'écosystème est détruit. Donc voilà, c'est une catastrophe.
Et encore là,
culture
conventionnelle, maintenant, disons qu'il y a beaucoup de matériaux qui permettent de ne pas travailler la terre en profondeur.
D'accord.
Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assimilé par les agriculteurs, maintenant.
Oui.
Très très souvent, à 80%, on va plus très profond. Voilà. Ils sont d'accord là-dessus.
Très bien.
Ils ne sont pas d'accord pour ne pas employer de filtre.
Ça, sur les pesticides, ils ne sont pas encore
d'accord.
Voilà,
les contrats, qui permettent de travailler avec un passage.
Oui, d'après, oui, sur l'amouriement profond, je pense que c'est plus, oui.
Parce que là, c'est une terre inerte, quoi.
Elle est inerte, et j'en vois des plus fortes que ça. Donc là, c'est plutôt prise aujourd'hui, ça, c'est ma terre, ce qu'on voit. Donc la couleur est très différente. Donc c'est une terre grumeleuse. Donc il y a une bonne volatilité du sol, il y a une bonne structure, il y a des débris végétaux, c'est normal. Et il y a des vers de terre. Je vais passer, et il y a des vers de terre.
Et puis elle est travaillée.
Elle est un peu travaillée, elle n'est pas trop travaillée.
Elle est aérée.
Elle est aérée, voilà.
Ça y fait énormément.
Donc par rapport, puisque je suis sur la terre, est-ce que je développe un petit peu sur le... Alors je ne suis pas biologiste, mais quelques éléments sur le...
Des terres plus ou moins calcaires, plus ou moins sableuses. Oui. Le travail de la permaculture par rapport à ça, est-ce que vous pouvez en parler un peu?
Eh bien, justement, l'intérêt de la permaculture, c'est que, en théorie, bon, ça permet de cultiver sur tout type de sol. C'est-à-dire que là où, justement, un tel maraîcher va dire, oh là, je ne vais pas faire pousser ces légumes parce que, voilà, la terre est ceci, cela. En permaculture, alors, évidemment, il va falloir peut-être un peu de temps, mais en permaculture, on parle d'aggradation du sol, c'est-à-dire que le sol, dans notre bonne pratique, et ça arrive au bout de quelques années, on va voir le sol qui va s'améliorer de façon considérable. Donc en fait, c'est dramatique, mais on peut faire marche arrière. Donc quand on voit cette terre-là, en quelques années de bonne pratique, vous aurez une terre qui sera très différente déjà. La nature, très vite, reprend ses droits et... Donc terre sableuse ou pas, alors c'est vrai que une bonne terre, c'est, moi j'ai la chance d'avoir une terre qui est équilibrée, c'est-à-dire il y a à peu près le même taux d'argile, de sable et de limon. Donc c'est une terre très équilibrée, en permaculture c'est très bien. Donc l'argile va retenir l'humidité. Trop argileuse, effectivement, c'est plus difficile parfois, on parlait des instruments que j'utilise, à travailler, on va essayer de travailler le moins possible. Trop sableuse, effectivement, on va perdre un petit peu d'eau, mais ça, justement, une terre trop sableuse en permaculture, on peut assez facilement y remédier, parce que justement, on va créer de l'humus, on va pailler le sol, ce qui fait que ça va limiter les défauts d'une terre sableuse. Alors, ceux qui sont installés au Béquelois, ils ont une production phénoménale sur une terre qui n'est pas bonne, à la base. Ils montrent dans une vidéo, effectivement, ils découpent leur sol et ils montrent à quel point, au-delà des 15 premiers centimètres, c'est de la pierre. Et donc ils étaient en échec, et lorsqu'ils se sont mis à la permaculture, ça a complètement changé leur, leur production, leur productivité. Alors après, il ne faut pas croire, c'est pas une chose de magique, hein, ça demande du travail et des années d'apprentissage. Donc moi, j'en suis encore qu'au début. Donc dans le story, puis j'ai effacé cette photo, le ver de terre, c'est extrêmement important, le ver de terre. Alors on peut aussi faire avec le, un échange, si vous voulez, le ver de terre, parce que certains savent en quoi il est important dans le sol.
Il
va aérer la terre. Très bien, le ver de terre, c'est un petit, c'est un laboureur formidable. Donc en permaculture, on va faire en sorte qu'il y ait le plus de ver de terre possible dans la terre. Ça, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire et c'est très rapide. Il laboure, et quelle est sa deuxième activité?
Il apporte peut-être l'engrais, non? Il y a des déjections quand même.
Tout à fait, effectivement, le ver de terre va infatigablement, il va broyer les résidus. Les déjections sont extrêmement riches, justement, et sont déjà prêtes pour la plante, hein, presque quasiment. Voilà, donc c'est un premier travail qui est fait, pour mettre à disposition de la plante, de l'azote, etc. À partir, et donc, pour que le ver de terre puisse travailler, il faut quand même qu'il y ait de la matière. D'où l'idée d'incorporer de la matière organique en surface. Voilà. Donc si vous voulez faire venir des vers de terre où il n'y en a pas, et ben, vous entassez des feuilles, de l'herbe, vous faites un tas, et puis vous soulevez, vous verrez très vite, ils sont là les vers de terre. Ils travaillent. Alors après, il y a aussi il y a la bactérie qui est très importante. Donc il faut un sol riche, un sol avec des bactéries qui elles-mêmes aussi vont permettre, une fois que l'humus, il faut qu'il se décompose et après il faut qu'il soit, puisse être assimilé par les plantes. Donc il y a deux étapes, décomposition des végétaux, mais après il faut permettre l'assimilation et ça c'est d'autres petites, toute la faune effectivement de la terre, dont les bactéries et les champignons, parce qu'il y a beaucoup de champignons, hein, on parle de mycorhizes, etc. C'est les champignons qui vivent à proximité des racines et qui vont être très actifs dans la décomposition, l'assimilation par le sol de, tout, de tous ces éléments. Voilà. Donc, faire une. Voilà.
Il y a des insectes aussi.
Il y a plein d'insectes. Je ne pourrais pas vous les passer en revue, mais une terre très riche, vous prenez un microscope, vous allez voir un monde microcosme. Hein. C'est des colomboles, il y a des. Je ne les connais pas très bien. Si vous voulez en savoir plus sur vraiment le fonctionnement du sol, je recommande Claude Bourguignon sur Internet. Certains connaissent peut-être YouTube. Il est extraordinaire dans sa façon d'expliquer le fonctionnement du sol. Voilà, donc. Donc, oui, les problèmes de la culture, on a dit, donc, labour profond. Alors, la terre à nu, voilà, donc, le problème du champ que je vous ai montré, c'est que la terre est toujours à nu. Alors, certains commencent aussi à laisser des résidus et, bon, un petit peu à prendre conscience de ça, mais une terre à nu, c'est une terre qui est fragile. C'est une terre qui va être soumise aux érosions, hein, dès la moindre pluie, surtout en hiver, hein, quand il y a beaucoup de pluie, si on laisse la terre à nu, au printemps, l'azote, il n'y a plus d'azote, hein, c'est fini. Important donc, en permaculture de laisser le sol le plus possible couvert par des végétaux. On appelle le paillage, on va pailler, alors on paille aussi pour d'autres raisons, on paille aussi pour éviter les évaporations, l'humidité du sol qui s'en va. On parle de mulching, terme anglais, donc c'est-à-dire ce qu'on va déposer effectivement, quelle que soit la matière. Alors le mieux c'est de mélanger, et dans l'idéal, mélanger du vert et du marron, puisque dans le vert on a de l'azote essentiellement, tout ce qui est matière verte. Et dans les matières sèches, on va avoir du carbone, qui est aussi très important pour la terre. Donc il faut tenir toujours le sol paillé le plus possible, et petit à petit. Ça se décompose par le dessous, hein, qui est humidifié, et quand il y en a pas assez, on en remet, etc. Alors après, ça pose des problèmes, parce que comment on fait quand on veut semer effectivement des carottes, alors qu'effectivement, il y a déjà des feuilles, de l'herbe sur le sol, et puis, on est souvent obligé de l'écarter, et puis de remettre après, donc ça c'est pas toujours évident. Après, c'est des techniques aussi que je ne possède pas encore tellement, mais on peut aussi semer à travers des mulches. Bon, après, ça dépend de variété, mais c'est possible aussi. Donc ça demande un certain nombre de techniques. Donc garder le sol, donc ne pas travailler le sol le moins possible. Donc nous, ce qu'on utilise en permaculture, Alors, j'ai un autoculteur dont je me sers rarement. Et j'utilise cet outil qui est vraiment l'outil à posséder si vous vous lancez dans la permaculture. Certains le connaissent. La grelinette. Alors, la grelinette, donc il y a deux manches, hein, c'est comme une fourche qu'on plante dans la terre, il y a, ça dépend, 3, 4, 5, 6 dents, 8 dents parfois. Et donc, déjà, c'est bien parce qu'on ne se fatigue pas le dos comme lorsqu'on bêche. Hein. Donc, on va simplement planter et on va faire un mouvement comme ça pour relever les bras et la terre va se trouver aérée sans être retournée. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout...
Ça la taille, quoi. Ça taille la terre.
Ça l'aère vraiment. Ça, disons que les parties...
Ça soulève,
mais sans retourner. Donc ça laisse des trous, ça laisse... Je réduis, je vais faire un exemple. Donc le principe, c'est d'aérer la terre, parce que quand même, ce qui est très important, c'est les échanges entre l'air et la terre, notamment en permaculture. Pour ça, après, je parlerai de la culture sur but, qui est, je suis grand fan, des tracteurs, mais la culture sur but, pour moi, est très intéressante aussi. Dans la grelinette, ça permet de ne pas trop se fatiguer et d'aérer le sol sans le retourner. Très, très important. Oui, pardon. Alors, notre problème d'agriculture, c'est que souvent, quand on cultive sur des surfaces immenses, des surfaces où il n'y a pas d'arbres, pas de haies, etc. Donc, surface immense, ça veut dire qu'on est forcément dépendant de la machine. Comment on peut cultiver manuellement sur des si grandes surfaces ? C'est pas possible. Donc, on est dépendant du tracteur, donc on va dépenser effectivement beaucoup d'énergie aussi. Même en maraîchage, vous voyez les maraîchers qui ont des tracteurs. Alors l'intérêt de ne pas avoir un tracteur, et ça permet de cultiver même sur une petite surface, parce qu'un tracteur, il faut des passages pour qu'on puisse passer. Donc si on n'a pas de tracteur, on peut quasiment tout mettre en culture la parcelle. C'est-à-dire on va faire de toutes petites allées, ce que je fais entre les buts, ce qui fait que sur une petite surface, on va quasiment essayer de cultiver chaque centimètre carré. J'exagère, mais... Ce qui est impossible à faire sur un tracteur, parce qu'il faut des passages. Donc c'est vrai que la permaculture se conçoit sur une petite surface. L'intérêt, c'est de la pratiquer sur une petite surface. Et c'est impossible à pratiquer sur une grande surface. Vous disiez les limites, je ne sais pas, là je vais passer moi doubler à 3000 ou 4000 mètres carrés maximum, donc même pas un demi-hectare. Ça me semble suffisant. Sauf après, si on veut coupler la permaculture avec ce qu'on appelle l'agroforesterie et effectivement intégrer des vergers, des arbres, qui parle de forêt-jardin aussi, comme ça. Et par exemple. C'est déjà bon, oui. Parce que moi, je rencontre déjà des difficultés, bon, de temps évidemment, mais parfois, je n'ai pas la matière pour pailler, en fait, c'est ça. Donc c'est vrai que par contre j'ai beaucoup d'arbres autour, donc j'ai pu faire le maximum de branches. Alors j'ai un autre outil, c'est un petit broyeur végétaux. Voilà, donc j'essaye sur ma parcelle de récupérer le maximum de branches pour fabriquer ce qu'on appelle du BRF. Certains connaissent sans doute le BRF. Donc bois raméal fragmenté. Pour l'avoir essayé, je trouve que c'est pour transformer une terre en quelques mois, c'est carrément miraculeux. Donc ça peut s'utiliser, donc c'est avec un broyeur. L'idée c'est de broyer quand même des branches plutôt fines, d'un, deux, trois ans, voilà, pas plus épaisses que ça. Parce qu'après, quand elles sont plus grosses, il y aura moins de. C'est moins intéressant. Alors, je ne sais pas, juste, alors dans les branches, il y en a un élément important, c'est ce qu'on appelle la lignine, qui c'est ce qui rend les branches dures en fait, et qui est composée, qui est intégrée au sol, est très intéressant aussi pour favoriser la vie du sol. Et créer un humus qui va rester plus stable.
Là, on peut utiliser toutes les branches, les haies, tout ça.
Le maximum. Donc l'idée aussi, parler de haies, de planter de haies, hein, parce que bon, j'ai de la chance qu'il y ait déjà beaucoup d'arbres, donc j'essaye de récupérer un maximum de branches. Ou quand il y a un DDE qui passe devant, sur la route devant qui fait les platanes, ben, si je le vois, je vais dire, ramenez-moi ce BRF, j'en ai besoin. Ça m'en fait un peu plus. Donc le BRF, vous pouvez l'utiliser simplement pour pallier. Alors, c'est, alors là, par contre, ça, ça garde énormément l'humidité du sol. Hein, t'es 3, 5 cm. Pas besoin de beaucoup arroser. Alors après l'intérêt, quand on l'incorpore à la surface de la terre, hein, en surface, sur les 5 premiers centimètres, au bout de 2, 3 mois, il se décompose. Et la terre, vous voyez la terre, c'est plus la même terre. Hein. Claude Bourguignon, il dit la terre, c'est devenu de la semoule, en fait. C'est de la semoule. La terre est devenue de la semoule quand on a mis du BRF et on voit effectivement la structure, elle est.
Et c'est rapide.
Moi j'ai constaté ça en 3 mois. À l'automne, et vous regardez au printemps, c'est plus la même terre, elle a une structure très différente, elle est beaucoup plus légère.
Ceux qui travaillent en biodynamie ce type de terre aussi.
Oui, alors biodynamie sans doute. Oui.
Ils appellent ça le couscous.
Le couscous, c'est ça.
C'est
ça, c'est vraiment du bois.
C'est efficace que des feuilles. Comme
ah oui, oui, oui. Ah, c'est efficace. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Les feuilles aussi, c'est bien. Après, les feuilles, c'est bien, ça ne va pas créer la même structure. Les feuilles, vous allez créer un petit terreau. Mais là, c'est carrément la terre qui est complètement transformée. Après, il faut le répéter, je pense, régulièrement pour avoir sur la durée au moins une terre. Après, le problème qu'on rencontre quand on met ce BRF, c'est que comme la décomposition est rapide, ça demande, les bactéries qui vont décomposer ça vont utiliser beaucoup d'azote et vont puiser l'azote du sol.
Ça provoque une fin d'azote.
Très bien, ça provoque une fin d'azote. La fin d'azote. Oui, comme. J'ai été prof. Déformation. Vous mettrez une note à la fin. Donc ceux qui n'ont pas parlé, là. La fin d'azote, FIM, hein, pas FIN. Alors j'ai constaté ça il y a encore peu de temps. J'ai semé là des carottes sous savoy. Les carottes ne poussent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Dans les mêmes conditions que les 2 années précédentes. Et après, je réfléchis, je me suis dit, ça y est, j'ai compris. J'avais effectivement, l'année d'avant, il y avait des tomates, j'avais paillé avec du BRF et je l'ai incorporé à l'automne. Et c'est vrai que la terre, elle a une belle structure, mais semée sans rien à rajouter, parce que je n'ai pas mis de tout, après, pas d'engrais, quoi que ce soit. Donc là, elle a du mal à démarrer. Donc dans ces cas-là, ça peut se combler. Moi, j'ai la chance d'avoir sur le domaine de l'ortie, ça je pourrais en reparler, hein, les plantes qui sont très intéressantes en permaculture. Bon, tout le monde connaît l'ortie et ses vertus, j'imagine. Alors la soupe d'ortie, c'est très bon, déjà. Très riche en minéraux. Et tout le monde connaît la bonne odeur du purin d'ortie, non pas tout le monde, mais ceux qui ont vécu à la campagne connaissent la bonne odeur du purin d'ortie. Alors le purin d'ortie, c'est aussi assez miraculeux, c'est tellement riche en azote, que voilà, c'est un engrais disponible dans la nature. Moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de... Vous avez aussi la autre plante intéressante, la consoude, moins connue. Consoude. Autrefois, alors consoude parce que on était sur les plaies autrefois et c'était censé faire cicatriser les plaies. Voilà, donc je l'ai implantée, elle se resserre, donc c'est une chance pour moi. Et donc la consoude, elle est très riche aussi en azote, mais aussi en potasse, plus que la l'ortie. Donc c'est deux plantes qui sont très complémentaires, donc purin d'ortie, purin de consoude. Avec ça, effectivement, pas besoin d'ajouter un petit peu d'engrais. Alors, j'essaie de ne pas me perdre. Si vous avez des questions, allez-y. Donc, je parlais des terres où il n'y a pas de haies, pas d'arbres. Donc, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé sur ma parcelle, c'est que j'ai planté une haie. Voilà, donc une haie. Donc, en essayant de planter une haie avec des essences les plus variées possibles, hein, puisqu'on est toujours dans l'idée qu'on va créer un écosystème complexe. Alors je vais faire mon prof encore. Donc qui peut me dire l'intérêt de planter une haie?
Ça attire les oiseaux.
Ça attire les oiseaux. Les oiseaux, c'est quand même des auxiliaires qui vont manger des chenilles. Hein.
Ça protège du vent.
Ça protège du vent, c'est un brise-vent. Effectivement, c'est la première raison. Je l'ai planté côté nord. Hein. Donc ça va permettre, moi, de... Il y a pas mal de noisetiers, par exemple. Hein, donc quand ils seront grands, je vais pouvoir récupérer du bois pour en faire du BRF, etc. Les feuilles qui... Les feuilles...
Voilà. Manger les noisettes.
Manger les noix. Ah oui. Donc l'idéal, c'est d'avoir des espèces fruitières. Noisetiers, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis une double haie, donc l'autre, il y a aussi des framboisiers. Et des espèces aussi plus rares. L'idéal, effectivement, ce serait effectivement d'avoir une haie qui donne à manger en même temps qu'elle protège du vent, qu'elle abrite les animaux, qu'elle fournisse du bois et des feuilles tous les ans.
On peut faire des plessis avec
oui,
le noisetier aussi.
Pardon.
On peut faire
oui,
des plessis.
Oui.
Des bordures en
plessis. Voilà, exactement. Un des intérêts du noisetier. Tout à fait. Ah oui, oui. Dans l'ordre qui vient montrer.
J'ai une question.
Oui.
Ah, pardon. Vas-y.
Une petite question. Par rapport à l'environnement humain. Ah, ouais. Parce qu'il n'y a pas que replanter les pratiques et les techniques.
Oui.
Oui. Il y a aussi, vous en parlez d'ailleurs, un mode de vie. Mmh. Mais quelle est, dans votre expérience, quelle est l'importance du facteur humain?
Oui.
Est-ce que c'est familial, si j'ai bien compris?
Alors, moi je suis...
Est-ce qu'il y a des participations externes?
J'ai des aides d'amis qui viennent de temps en temps qui vont me donner un coup de main. Bon,
mais pas régulièrement.
C'est
quand même une entreprise familiale.
C'est pas, non, je suis vraiment, c'est à titre individuel, pas familial. On me prête une terre, en fait, j'ai la chance, parce que la difficulté, c'est d'accéder à la terre. Donc là, c'est une terre qu'on me prête. C'est pour ça qu'elle est assez petite, hein, mais moi, ça me convient très bien.
Non, si je pose la question, c'est parce que... En tant que, on fait partie d'une association qui s'appelle l'Université Nomade et on est en lien avec des producteurs du marché du Capitole.
Oui.
Dont l'un est en relation au Togo avec justement quelqu'un qui est retourné là-bas pour appliquer la permaculture.
Oui.
Je m'interrogeais moi un peu par rapport à ça, parce qu'au Togo, dans le nord du Togo, il y a différentes expériences, mais qui sont beaucoup plus collectives.
Oui, oui, tout à fait.
Et tandis que lui, c'est beaucoup plus individuel. C'est pour ça que je pose la question.
Oui, alors...
Et donc, il se présente un peu comme une entreprise.
C'est
paysan, mais enfin, bon...
Ah ben, j'ai un statut de...
Donc, il y a les deux.
Oui. Mais on peut l'envisager de différents biais. Enfin, effectivement, idéalement, peut-être, il y a beaucoup de gens qui le font, c'est de se regrouper en collectivité.
C'est ça.
Certains, ils vont...
C'est même au nord du Togo, il y a des formations qui sont même officielles, en fait.
Non, moi, je ne pouvais pas... Moi...
On va présenter ce film dans le cadre du Festival Fred, qui est le festival sur le développement durable, qui a lieu en mai, le 4 mai. On présente ce petit film. Et puis après, je pense qu'on va aller un peu plus loin aussi pour organiser une journée après, ailleurs, avec une réflexion aussi là-dessus, mais pas seulement sur le climat, sur autre chose. Et on contactera peut-être.
On peut, oui, on peut. Mais bon, moi je suis effectivement un peu solitaire là, mais c'est aussi bon parce que je suis. Le terrain ne m'appartient pas, il y a des personnes qui vivent sur place et je ne peux pas faire aussi tout ce que je voudrais faire non plus. C'est sûr que s'il n'y avait que moi, bon, peut-être effectivement j'aimerais intégrer différents savoirs, etc. Parce que l'idée de la permaculture aussi, c'est de se regrouper avec des gens qui ont des savoirs différents. Parce qu'il y a la partie, effectivement, on va cultiver des légumes, etc. Mais il y a la partie, on va construire sa maison. Et on va la construire avec des produits naturels et on va réfléchir, justement, à comment faire pour, justement, pouvoir se chauffer sans électricité, peut-être. Hein, voilà. Donc, si dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est menuisier, il y a quelqu'un qui est charpentier, ça va aider. Mais ça, je sais que ça se fait, ça. Des gens qui rachètent des villages à un moment donné, qui ont des compétences spécifiques, chacun sa compétence. Et qui font revivre un patelin qui était complètement à l'agonie. Bien sûr, pour moi, dans l'idéal, c'est lié l'humain et le. Bien sûr. Dans ma pratique, non, mais dans l'idéal, c'est sûr que c'est ce vers quoi il faudrait tendre, justement, parce qu'on a besoin de solidarité, et on a besoin de regrouper des compétences dans des lieux assez précis, au sein d'une commune, etc. Il y a tellement de choses à faire au niveau des communes. Si les communes voulaient de se donner les moyens, bon, il y en a certaines qui le font, hein. Je parlais d'autosuffisance, je sais que la ville d'Albi essaie, je ne suis pas sûr que ça avance très vite, mais ils ont récupéré des terres hein, sur la commune, au bord du Tarn, j'en ai vu hein, certaines, où ils essayent d'intégrer des maraîchers, les terres sont prêtées, hein, tout simplement. C'est l'idée bon, qu'ils avaient, c'est d'être autosuffisants, je ne sais plus en quelle année, je pense qu'ils ont du mal si ça ne s'avance pas plus vite, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Mais il y a des initiatives quand même qui sont prises, comme ça... Au niveau urbain aussi, parce que la permaculture, l'intérêt de la permaculture, c'est qu'on cultive sur les petites surfaces. Donc, du coup, on peut, comme vous disiez, cultiver sur des terrains difficiles, des terrains en pente, parce que s'il y a une pente, on va s'adapter à la pente, hein, on va faire des terrasses peut-être. Et si on n'a pas de tracteur, qu'il y ait des terrasses, c'est pas trop gênant, par exemple. Hein, bon. On sait que ça s'est fait parfois dans des cas vraiment extrêmes. On peut aussi amener la permaculture en ville. Dans l'idéal, je pense que Il faut repeupler les campagnes, mais il faudrait aussi que la ville, justement, se transforme aussi.
Oui, absolument, on parle en ce moment, tu as plus, tu as fait tout le monde de l'Afrique, quoi. Et la nouvelle campagne, c'est la ville.
On n'entend pas ce que vous dites. On disait qu'on ne peut pas profiter de ce que vous dites.
Oui, on va, de plus en plus, on parle de la nouvelle campagne, ce sont les villes, notamment au niveau des abeilles, etc., quoi. Parce que les abeilles, elles meurent dans les campagnes parce que, à cause des pesticides. Oui. Mais au contraire, dans les villes, elles peuvent faire énormément. Quoi. Mmh. Et on fait beaucoup de miel, etc. Quoi.
Oui, c'est vrai. On peut plutôt faire plus de miel dans les villes qu'à les campagnes. Hein.
On y revient parce que moi, quand j'étais enfant, bon, moi j'habite au Toulouse, un pavillon, ça fait 400 mètres carrés. Quoi. C'est des maisons comme ça. Et quand j'étais enfant, tout le monde avait son jardin dans la rue.
Bien sûr.
Oui,
maintenant, on y revient.
On y revient, il y a une association incroyable comestible, je sais pas, voilà. qui doit exister toujours. C'est vrai qu'on voit parfois à Toulouse, voilà, après au bord du canal, là, il y avait des espaces qui étaient cultivés comme ça. Par... Oui.
Vous avez dit au début de votre entretien, de cet entretien, que la permaculture,
oui.
un de ses buts,
oui.
était de produire toute l'année des légumes.
Légumes ou fruits
enfin,
ou...
Enfin, oui. C'est peut-être pas le terme exact, mais de produire ce qui peut se manger.
Oui.
Bien. Premier aspect, première question. Deuxième partie, j'ai parfaitement compris qu'il n'était concevable pour le moment que de cultiver de petites parcelles. Petites, ça peut aller, vous nous avez dit, pas jusqu'à 2000 mètres carrés par exemple.
Oui.
Mais je ne suis pas un spécialiste.
Oui.
Donc, est-ce que la permaculture doit être considérée comme une des... J'emploie un langage qui m'est propre, c'est peut-être pas le bon. Doit-on considérer la permaculture comme une culture future et une facette de la nouvelle agriculture, ou est-ce qu'il y a quand même la possibilité, compte tenu de ses qualités, de concevoir des productions qui permettent de satisfaire plus de demandeurs et de consommateurs. Et je finirai en disant, pardon, si vous pouvez produire, et ça vous nous l'avez dit, pendant toute l'année, ce qui peut se manger, moi je vous demande des prunes en février.
Donc non, vous
non,
le
non,
non, non, c'est pas ce que vous voulez dire.
Non, bon, c'est des fruits. Bon, alors d'accord.
Des radis.
Des légumes de saison.
Tant pour moi.
Des
radis en février.
Voilà, c'est ça.
À moins que l'on puisse complètement changer la philosophie de la nourriture en se disant pourquoi pas retrouver à ce que connaissaient nos grands-mères, je vais citer peut-être un mauvais mot, les scrodes, les salsifis ou les trucs qu'on ne voit plus du tout.
Oui.
Parce que ça peut-être,
c'est ça.
Ça pousse, ça pousse en novembre. Mais il faut réinculquer le goût
oui.
du salsifis à la maîtresse
oui.
de maison qui met des gants parce qu'elle y perd ses doigts. Hein, ça l'éteint en noir et il faut 6 mois pour qu'il prenne la couleur. Et peut-être que la production ne sera pas telle qu'elle permettra de satisfaire les besoins. Voilà, c'était un peu l'aspect de ma question en trois parties. Mais c'est tout, hein, c'est
oui, pas... Oui. Non, mais d'abord, sur l'idée de produire toute l'année, c'est vraiment de produire des légumes de saison. Hein, donc,
ah.
Ah oui, c'est resté.
Non, non, mais il est mal interprété lorsque vous nous disiez.
D'accord. Non, non, c'est
produire
pas, c'est pas produire des légumes.
Bon, toute l'année, on peut manger ce que produit la permaculture.
Pour prolonger la question, ce qui m'intéresse aussi, c'est
plus fort aussi,
finalement, vous livrez des légumes ici. Alors, c'est d'abord, est-ce que c'est votre activité principale, le jardin, et est-ce qu'on peut en vivre?
Oui.
Alors, voilà. Oui,
c'est le prolongement un peu de...
C'est le corollaire, ça, oui. Parce que la famille peut en vivre. C'est le corollaire.
Oui, oui. Donc, vous dites, est-ce qu'on peut produire, nourrir tout le monde? C'est ça que vous voulez savoir?
C'est-à-dire
la terre entière, c'est ça?
Puisque... Non. La famille...
Ah, à l'intérieur.
La personne qui cultive, la famille du maraîcher, voilà. C'est ça.
C'est-à-dire une personne individuelle, peut-être. Oui, bien sûr.
La personne individuelle, on
l'a. Ou la famille qui aurait 300 mètres carrés de jardin. Bon, oui. Mettons la famille qui a 300 mètres carrés de jardin. Elle...
C'est largement suffisant.
Oui, mais non, bon, je prends ce chiffre, mais il y en a qui arrivent sur des surfaces beaucoup plus petites.
Non, mais là, d'accord, mais est-ce que. Il y a des produits qui seront obtenus toute l'année?
Ah non.
Ah, donc il y a des moments où la permaculture ne peut pas produire, guillemets, quelque chose à manger.
Si, mais...
Quelque chose de différent.
Il y a des légumes pour toute l'année.
On n'est pas les mêmes.
Moi, j'ai du chou, c'est un légume.
Moi, j'ai une fleur de bitume, hein, alors je comprends. Donc c'est ça le...
Oui, c'est surtout l'idée de ne pas produire des tomates
l'hiver. Ah, mais ce n'est pas possible. Enfin,
ah si, c'est possible, mais pas...
Ce soir, on parle de permaculture.
Oui, très bien.
Donc la permaculture permet de produire ce qui est nécessaire pour la nourriture, par exemple, d'une famille ou d'une personne.
Oui, mais bon,
puisque toute l'année, il y aura de quoi manger.
Oui, mais après, c'est ça que... Oui, oui. Après, ça peut se faire dans le cadre. Mais la permaculture, c'est une forme de jardinage. Bon, avec certaines techniques, mais c'est du jardinage en gros. Hein. Donc, un jardinier qui, effectivement, a une femme et deux enfants, même s'il ne pratique pas à la lettre la permaculture, dans son jardin, il peut produire pour toute l'année. Après, il faut savoir, comme vous dites, c'est une question d'habitude alimentaire, c'est-à-dire on va manger ce qu'on a dans le jardin. Donc c'est peut-être parfois moins de variété, ou faire une croix sur certains légumes, etc.
Le gratin d'ortie, c'est pas fabuleux. Hein.
Peut-être pas, mais la sauce, en tout cas, moi, j'en suis...
J'ai goûté le brouet, c'est-à-dire la sauce avec la soupe, le brouet, c'est-à-dire la flotte avec de l'ortie qui a bouilli, quelque chose pour avoir un peu de goût.
Oui, alors si c'est de la flotte avec de l'ortie qui a bouilli, moi, elle ne me plaira pas non plus.
Ça va très loin, quoi.
Je vous donnerai la recette de la soupe à l'ortie.
Et au niveau de l'arrosage, vous arrosez souvent ou...
Eh bien, l'arrosage, donc évidemment, le mieux, c'est d'arroser au bout à bout. Donc, j'ai la chance d'avoir un plan d'eau.
Une amenée d'eau, quoi. Enfin,
Donc, en permaculture, on est censé arroser quand même beaucoup moins. On fait des économies d'arrosage. Même si un désavantage, alors la butte a beaucoup d'avantages, mais un désavantage de la butte, c'est qu'elle peut sécher assez vite. Puisque dans la butte, il y a un rapport entre l'air et la terre qui est plus important. Mais ça, c'est aussi un sacré avantage. Mais si on garde dans les serres, moi, les bouts de butte, ça sèche, mais à toute vitesse. Parce que justement, il y a un échange très fort entre l'air et le. Donc l'arrosage, c'est du goutte à goutte, donc j'ai la chance de pouvoir prendre de l'eau dans un plan d'eau qui est sur place. Je voulais vous montrer aussi les arbres. J'ai un petit plan d'eau là, donc effectivement, alors ça peut baisser considérablement, c'est pas baissé l'été dernier, mais alors l'été d'avant, il n'y avait quasiment plus d'eau, limite pour arroser. Mais justement, en paillant beaucoup le sol, hein, notamment le BRF, etc., on peut réduire considérablement les arrosages, sachant que souvent les jardiniers ont tendance, malgré tout, à trop arroser plutôt que pas assez. Je prends l'exemple de la tomate. Moi, si je repique une tomate, je la mets en terre. Mais alors, j'arrose beaucoup quand je la repique, ça c'est sûr.
Oui,
mais j'attends facilement 15 jours avant de l'arroser de nouveau. n'y a aucun souci. Elle va émettre des racines très profondes. Donc c'est aussi effectivement des pratiques qui permettent, il faut laisser la plante, des racines de la plante aller vraiment le plus profond possible pour qu'elle ne manque pas d'eau lorsqu'il n'y en aura pas. Elle va aller puiser dans les profondeurs du sol. Donc on essaye aussi de minimiser. Donc s'il faut aussi, plutôt que d'ouvrir le robinet, on va aller voir dans la nature du sol, on va prendre une bouche, on va récupérer un peu de terre, voir s'il est suffisamment humide et si c'est le cas, on n'arrose pas. Mais effectivement, en paillant le sol, on arrive quand même beaucoup. Après, il faut pailler sur une bonne épaisseur pour effectivement limiter les arrosages. Voilà, donc là aussi c'était parce que voilà, l'idée de récupérer du bois avec des frênes, là j'ai créé de ce qu'on appelait autrefois les trognes de campagne. Donc chaque année, il va m'y mettre pas mal de rameaux que je vais pouvoir récupérer, qui vont pouvoir me servir pour faire du BRF.
Je revenais sur l'économie. Quoi.
Oui, alors alors moi, mon avis, pour que ça réussisse, ça va avoir aussi un mode de vie, une conception de l'agriculture. Hein, donc, parce que si on fait une école d'agriculture, même les écoles de bio-agriculture, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous allez acheter, je ne sais pas, 2000 mètres carrés de serre, ça va vous coûter tant, il vous faut un tracteur, etc., ça va vous coûter tant. Donc très vite, il y a un investissement. Donc des dettes, etc., il faut les rembourser. Donc, je pense, et ça va avec aussi une conception aussi, voilà, globale de la société, c'est-à-dire, l'idéal, c'est de ne pas avoir d'emprunt. Donc, bon, j'ai eu la chance, bon, c'est vrai, quand j'ai quitté l'enseignement, j'ai eu une prime de départ qui m'a servi, notamment, à pouvoir investir dans des serres petites, un motoculteur, c'est 2500 euros, de l'irrigation, bon, 2 ou 3000 euros, la totalité des serres, il y en a pour 10 000 euros à peu près pour l'instant. Vous voyez, je ne suis même pas. Bon, il y a un broyeur, il y a d'autres. Mettons 20 000 euros, alors qu'un maraîcher traditionnel, ça va être beaucoup plus. Donc, alors si on n'a pas, effectivement, si on n'a pas de dette, moi j'ai une autre chance, c'est que je suis hébergé, donc je ne paye pas de loyer. Donc, oui. Non, après, voilà. Donc, quelqu'un qui. Voilà, c'est un plan d'eau qui me permet de. Alors le plan d'eau a d'autres avantages, il va héberger des crapauds, etc. Donc, quelqu'un qui, effectivement, qui paye un loyer ou qui a un emprunt, déjà, c'est 500 euros de loyer, ça va être plus difficile. On peut en vivre, moi, pour l'instant, je suis limite, mais il faut le voir à long terme. Et pour moi, l'écueil, c'est justement à éviter, c'est ne pas emprunter, ne pas avoir à rembourser, du moins ne pas avoir à rembourser le matériel agricole, si c'est possible, ou le moins possible. Voilà. Après, donc, pratiquer la vente directe, hein, justement, comme c'est une petite production, l'intérêt, on vend, voilà, le Recanto m'achète mes produits à un prix qui me convient, et quand je fais des paniers, pareil. Donc la vente directe, c'est vraiment. Mais bon, les gens qui font la culture font tous de la vente directe. Donc il y a pour moi beaucoup plus facile d'en vivre que effectivement aller dans le sens de l'agriculture conventionnelle où on va investir, on va attendre des indemnités, etc. Et toujours produire plus. Voilà. Après, c'est pas forcément évident.
Et si on imagine s'endetter pour acheter les terres, oui. C'est ça.
Bah après.
Non, c'est pas un projet, non, mais c'est simplement imaginer quand même le modèle économique à plus ou moins long terme et en l'élargissant, parce que il ne suffit pas de quelques producteurs.
Oui. Après, si, c'est possible. Après, je pense que l'idéal, c'est de faire ça regrouper. Moi, je suis tout seul, c'est vrai que si on est à deux ou trois, je pense qu'on est beaucoup plus fort pour s'en sortir, pour gérer la fatigue.
Tu tiens compte quand même aussi des limites de la terre.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler plus fort?
Les limites de la Terre
Les limites des ressources.
Et bien les ressources, oui.
Et puis du changement de climat.
Oui.
Qui va impacter pas mal.
Ça va être un problème, oui. Et la Terre, bon, la Terre après, donc, comme je disais, même une Terre.
Donc il y aura une certaine idée quand même de décroissance.
Complètement. Si on est dans l'idée d'une sorte de décroissance, hein, moi, je suis pas chez moi, on m'a permis d'aménager, je vis dans 15 mètres carrés, hein, c'est tout petit. Après, voilà, mais je suis tout le temps dehors. C'est pas... Donc c'est un mode de vie. Après, j'ai accès effectivement à la maison voisine, mais par exemple, j'ai pas l'eau courante. Je me débrouille avec. Donc effectivement, on est décroissant. Donc c'est aussi, il faut accepter aussi un certain mode de vie, un petit peu, qui pour moi n'est pas austère du tout, mais pour certains, vraiment, ils ont du mal à renoncer à un certain confort. Quoi.
Voilà. Plutôt aider quelqu'un à côté à avoir le même mode.
L'idéal, c'est effectivement de faire ça regrouper, oui.
C'est de croître tout le temps.
Et je crois quand même qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir mettre les choses au clair. Quoi, hein. Parce que pendant 50 ans, on nous a dit, mentalement, on nous a dit, il faut mettre de l'engrais, il faut acheter 3000 hectares, un tracteur de 140 chevaux, 4 roues motrices. Vous allez vous livrer à la coopérative. En fait, on travaillait énormément pour les capitalistes. Quoi. Il faut le dire comme c'est. Quoi. Et là, maintenant, moi, je vous dis franchement, moi, je suis paysan, ça fait 40 ans. Mais j'ai beaucoup de voisins qui se mettent à l'agriculture bio, à la permaculture. Et des gens qui commencent à réfléchir et à comprendre que, au lieu de faire le chèque pour payer les engrais et tout ce qu'il faut payer, on fait mieux d'en faire moins. Et ça rapporte 10 fois plus. Parce qu'en fait, là maintenant, mentalement, il faut faire un retour en arrière, 50 ans en arrière, quoi. Et comme faisaient nos grands-parents. Bon, mes grands-parents, ils avaient quoi, 2000 mètres carrés, et ils ne vivaient qu'avec ça. Et maintenant, si on dit à un professeur dans une école, à qui on a matraqué pendant toutes ses études, pendant 30 ou 40 ans, l'ère industrielle, quoi, le gars, il ne vous croit pas. Quoi. Alors que c'est tout à fait viable, quoi. On peut tout à fait vivre en faisant, en ayant 2500 mètres carrés de terrain. C'est pour ça que louer 2500 mètres carrés de terrain, ça ne coûte rien.
J'ai aucune idée, moi.
Non, mais c'est pour ça que je préfère mettre les poignets sur le lit.
C'est un fermage, ça ne coûte rien.
Ça ne coûte rien, on peut trouver facilement et on peut très bien en vivre. Ce qu'il y a, c'est que c'est mentalement qu'il va falloir revenir en arrière, quoi. Voilà un peu c'est
alors, ça le difficile. Le progrès, c'est ça.
C'est, exactement.
C'est pas revu, c'est ça le progrès.
Ah oui, et moi, dans mon village, là, cette année, il y en a deux qui se sont mis à cultiver d'une manière bio, dont un gros industriel qui était dans les céréales, qui ne met plus rien dans ses champs. Et un autre, là, j'ai appris ça il y a quelques temps, là, qui était un hyper industriel dans la salade. Il livrait des milliers de pieds à Casino. Ça a duré 30 ans, cette affaire-là. Puis finalement, il m'a dit il n'y a pas longtemps, si on avait su, on n'aurait jamais fait ça.
Ce que j'avais envie de dire, est-ce que nos ancêtres ne faisaient pas un peu de permaculture sans le savoir?
Ils ne faisaient que ça.
C'est le retour à des méthodes en fait, qui existaient. C'est le retour à des méthodes.
D'où ma question.
Pardon ?
D'où une partie de ma question, on y revient.
D'où l'importance des bêtes, quand même, sur
les animaux.
Les petites bêtes. Oui.
Alors, quel est des animaux, un type de bête ou...
Non, par exemple, les poules.
Les poules, oui, la poule, effectivement.
Le porc, qui doit avoir sa fonction aussi.
Alors, oui, alors le porc, on dit qu'il va labourer, il va finir labourer. Bon, le porc, je ne sais pas trop. Justement, pas trop pour toucher au sol, mais certains porcs, peut-être là où il y a des... Il y a le mouton, je sais, qui est utilisé pour... je sais plus. Enfin, il y a énormément de choses à faire avec les associés à les animaux. Hein. Ça, c'est une part importante, effectivement, de la permaculture. Ils peuvent
nous rendre service. J'ai vécu à la campagne et on vivait en autarcie. Oui, très bien. Au
niveau nourriture,
on avait le poule, le canard.
Ah, oui, voilà. C'est ça. Exactement.
Ouais. Je me posais une petite question par rapport, même si on revient juste un peu en arrière, hein, par rapport aux terres, par rapport à ce qu'est la permaculture, sa diversité, la biodiversité presque, on disait, du jardinage, donc des petites parcelles, tout ça. Je pensais, puisqu'il y a une multiplicité de production, qui sont voisines, etc. Je pensais à certains vignerons, je ne parle pas de viticulteurs, je parle de vignerons qui ont plusieurs cépages et qui vont chercher justement des terrains parfois accidentés, parfois proches de l'eau, parfois plus ensoleillés, tout ça. Oui. Est-ce que En permaculture, l'idéal ne serait pas d'avoir un terrain accidenté,
oui.
Ou alors est-ce que c'est plutôt un inconvénient? J'ai entendu qu'on pouvait avoir, et je l'ai vu d'ailleurs, des terrasses en permaculture.
Oui, oui, c'est bien.
Mais le terrain accidenté, ça serait
ça
un inconvénient
être...
ou...
Ça dépend. Il n'y a pas d'avoir des
pour
avantages.
Pour la diversité.
Pour la diversité, il peut y avoir des avantages. Hein. Donc là, par exemple, la pente, une pente orientée vers le sud, par exemple, en hiver, c'est extrêmement intéressant. Parce que vous avez les rayons, le soleil est tellement bas qu'il va venir, et si la pente est comme ça et le soleil comme ça, vous avez des rayons qui sont plus proches de la perpendicularité. Et effectivement, c'est quand on est perpendiculaire que le rayon chauffe, en fait. Et donc, c'est aussi, on trouve ça dans la. Pour revenir à la butte, du coup, parce qu'effectivement, la butte, pourquoi cultiver sur butte? Donc, butte, c'est effectivement, on va prendre la terre sur les allées, on va la remettre au milieu, on va créer des buttes. Comme ça, mais d'autres comme ça. Alors il y a les buttes rondes et puis on a les buttes plates, etc. Différents types de buttes. Alors quel est l'intérêt? Donc tu parles effectivement, alors, le but, la butte, on va retrouver l'idée. Alors d'abord, on peut l'orienter nord-sud ou est-ouest. Là, il peut y avoir des différences. Parce que si vous l'orientez de l'est à l'ouest, il y aura une partie qui sera exposée au sud et une partie de la butte qui sera exposée au nord. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir cultiver les mêmes choses au sud qu'au nord. Et donc, c'est-à-dire, ça peut être intéressant au printemps, en été, ça peut être intéressant, on témoin, puisque le soleil a plus d'aplomb, ça peut être intéressant à l'automne. Une plante qui n'aime pas trop le soleil, on va la mettre du côté nord. Une plante qui a vraiment beaucoup de besoin de soleil au printemps ou au début d'été, on va la mettre de l'autre côté. Donc, déjà, on peut créer des pentes, avoir des pentes, ou avoir des pentes naturelles, on peut en tirer parti. On va dire si c'est mieux ou pas. Alors trop de pentes, je ne pense pas que ce soit non plus...
Oui, parce qu'il y a des problèmes de ruissellement.
Après, il faut faire des terrasses. Donc c'est du travail en plus.
Il
y a trop de pentes, après ça dépend ce qu'on y met. Si on met des arbres, c'est différent, mais il vaut mieux avoir un terrain plutôt bas, je pense. Plat quand même, c'est mieux.
Mais par contre, la butte, c'est intéressant, parce qu'il n'y a que dans ce type de pratique qu'on peut avoir, trouver cet intérêt sur de l'agriculture... extensive.
Alors, les pentes, c'est pas très intéressant dans la zone agriculture, pas du tout.
C'est possible.
Oui. Et la butte, alors la butte, les buttes rondes, par exemple, l'intérêt, donc, puisqu'on est censé utiliser le plus de surface possible, ça crée un arbre de cercle. Donc, ça veut dire que vous avez une surface qui est plus importante que si vous avez cultivé sur la même surface en dessous en ligne droite. C'est-à-dire, vous avez une surface plus importante. Vous rajoutez, en fait, de la surface. Vous prenez dans les allées, mais vous, si la butte est vraiment ronde, vous rajoutez quand même une surface. Donc finalement, ce que vous perdez dans les allées, vous le regagnez là. Donc ça veut dire que c'est comme presque si chaque centimètre était cultivé. Donc la butte, après, elle se réchauffe très vite, donc c'est très intéressant au printemps. Si vous avez des buttes au printemps, vous allez pouvoir mettre en culture beaucoup plus vite que si vous n'avez pas de butte, parce que quand vous n'avez pas de butte, la terre elle est compacte, etc. Et il n'y a pas trop d'échange, moins d'échange avec l'air. Le soleil pénètre moins, donc ça se réchauffe beaucoup plus. Les buttes au printemps se réchauffent très vite, très très vite.
Mais est-ce qu'elles ne se dessèchent pas trop vite à l'été?
Alors, l'inconvénient, c'est l'évaporation, donc il faut pailler beaucoup. Moi, je vois d'autres intérêts, c'est que je récupère de la profondeur de sol aussi, puisque je prends sans. Bon, c'est vrai que pour les passages, moi je passe le tracteur, après il y a vraiment des extrémistes de la permaculture qui vont jamais. C'est faisable, il faut du temps ou simplement mettre des cartons sur l'herbe et puis après faire pousser poser des pommes de terre et puis ensuite mettre un peu de terre par-dessus et bon, voir ce qui se passe. Le rendement n'est pas forcément, à mon avis, pas forcément. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je dis, l'idée que.
Passer le motoputeur, vous étiez dans une.
Ah oui, récupérer un peu de profondeur du sol, oui, parce que. C'est bien, oui, je vais noter. Ouais,
ouais. Ah, marquez-moi.
Une butte, on peut la faire à un endroit. Parce que si vous le prenez la tête à côté de la retournée, il n'est plus dans le bon sens, disons.
Non, si, parce que je prends. Ah, voilà, je ne prends justement que la surface, et donc là, tant qu'on prend ça, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est une zone humifère, c'est de l'humus. Donc je prends à peu près cette surface et je la mets.
Faut pas faire une tranchée, quoi.
Non, faut pas aller jusqu'à la tranchée.
Et
Et après, j'avais entendu dire que justement, il y avait des gens qui, ils enlevaient la terre arable, ils la mettaient de côté, ils creusaient, et après ils mettaient des branches.
Oui, c'est ce qu'on appelle les lasagnes. Bon, je ne vais pas parler des lasagnes, la culture en lasagne. Oui, alors ça demande un travail énorme, donc je ne prends pas le temps de le faire. J'ai essayé une fois dans un potager, et je trouve que le bois, parce qu'effectivement, on va creuser, et on va enterrer des branches, on va alterner branches, feuilles vertes, feuilles sèches, etc., en remettant des couches de terre. Là où je l'ai fait, le bois s'est décomposé très lentement. Donc, mais non, ça, après, ceci, ça peut être intéressant, mais dans ma pratique, ce n'est pas... Et je ne vois pas trop l'intérêt, parce que dans la nature, quand même, la matière organique, elle est en surface, elle n'est pas au fond. Parce que si vous allez trop profond, il n'y a pas d'échange avec l'air, et la décomposition ne peut pas avoir lieu. Il faut qu'il y ait un échange air-humidité pour que la décomposition se fasse. Sinon, ça se fait très lentement ou très mal.
Ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle sans arrêt, quoi, au fil des saisons, on arrive facilement, en quelques années, à avoir ça de bon terme.
Ah oui. 50 cm.
Facilement, oui. Très rapidement.
Quand vous dites, parlez quoi des...
Quand on paille régulièrement et tout ça, si on ajoute du fumier tous les ans, du fumier fois mètre, vous allez dans les hippodromes et tout ça, ils cherchent à se débarrasser du fumier, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des paysans aussi qui font ça. Vous allez rapidement avoir 50 ou 60 cm de sable, quoi, carrément. Quoi.
Et le compost, alors, quand on fait du compost.
Oui.
Ça
j'attends la question.
Mais non, alors, moi j'ai du compost. On fait du compost, c'est vrai, hein, ça ne sert pas, quoi. Il y a plein de bestioles là-dedans.
C'est très bien.
Ça grouille, mais c'est impressionnant. Quoi. Il y a plein de vers et même plein d'insectes aussi. Voilà. Bon. Alors, il faut le mélanger à quelque chose.
Oui.
Il faut le mélanger à quoi?
Vous avez un potager?
Non.
Mais deux fleurs. Ah, oui, on fait du compost.
C'est tout, on fait que du compost. Mais il faudrait ça essayer. Mais quoi?
Il faut la donner à quelqu'un.
Non,
mais moi j'ai envie de.
Pas de terrasse, pas de fleurs, rien.
Il faut acheter de la terre.
Un grand sac.
Je leur donne la
compost. Non, le compost, il est dans le coin. Après, la terre, elle est dure comme c'est pas possible. On ne peut pas récupérer, il y a des racines d'arbres, etc. Donc il faut acheter de la terre. Par exemple, faire un bac,
Mais
mélanger le compost à de la terre, c'est bien ça.
Oui. Alors, moi, après, moi, je mets du terreau aussi dans ma terre, mais ce qui est mieux que ça, c'est de mettre en surface des matières qui vont se décomposer. Parce que le compost, vous allez effectivement être très riche en azote, si vous voulez. Non, c'est très bien d'être du compost. Hein. Alors, pas trop profond, vous mélangez en surface, sûrement. Pas la peine de... Mais il ne va pas apporter une vie supplémentaire tellement au sol, c'est-à-dire il ne va pas un peu, mais par contre, si vous laissez se décomposer les végétaux directement alors vous cultivez des légumes, c'est bien plus intéressant parce que vous créez vraiment une vie parce que les animaux qui vont venir décomposer ces végétaux, ils vont arriver, etc. Donc, en permaculture, c'est essayer de s'inspirer le plus possible de la nature.
De la forêt.
Qu'est-ce qui se passe dans les forêts? Bon, y a les feuilles qui tombent au sol, qui s'accumulent, et à force, quand vous allez dans les forêts, vous avez des sols extrêmement meubles. Ils sont mous, les sols des forêts. Hein, parce qu'il y a une énorme quantité d'humus qui s'est accumulée au fil des années. Et on a tendance à penser, par exemple, même dans une prairie, certains pensent que une prairie, par exemple, c'est un sol qui n'est pas riche. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de l'herbe qui pousse, etc. Alors qu'il y a une énorme richesse dans une prairie. Pourquoi? Parce que les végétaux, c'est une terre qui n'a jamais été, une prairie qui date de 50 ans, une terre qui n'a jamais été retournée, des végétaux qui sans cesse se décomposent. Alors si en plus il y a des arbres à côté, c'est encore mieux, parce qu'il y a beaucoup de carbone qui va venir là, qui va s'accumuler. Et moi quand je me suis arrivé sur la parcelle, c'était une friche, c'était une sorte de prairie, mais plus une friche. Hein, beaucoup d'orties. Alors l'ortie, effectivement, c'est... Si vous avez de l'ortie sur votre terrain, c'est très bon signe. Ça veut dire que la terre est riche en azote. Donc j'ai fait un contrôle, j'ai examiner ma terre, j'ai envoyé un laboratoire, terre qui n'avait pas été cultivée depuis au moins 50 ans. Voilà. Une terre où il ne poussait que des plantes sauvages. Et donc, la terre, après l'analyse, la terre était excédentaire en azote, en potasse, en phosphore. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette terre. C'était une terre qui n'avait pas été cultivée. Voilà. Donc, les prairies sont des terres riches. Et alors, poser la petite question. Entre la forêt ou la prairie, quel est l'endroit le plus intéressant, le plus riche? Où est-ce qu'il vaut mieux cultiver? Sur la prairie ou dans la forêt?
Dans la forêt, on le fait plus. Mais...
Non,
ouais, non, ta question est pas.
Mais si, j'ai vu.
Oui.
Si on fait du...
Alors quel est le sol, quel
si
est l'endroit
du cacao ou de... oui, oui, oui. Du café quoi. Mais bon, c'est non, pas ici.
Le soleil.
La lisière.
Ah, bravo. Mais alors, vous êtes un spécialiste.
Et voilà. Hein. Non mais c'est ça.
Et c'est ça. C'est vous. C'est...
Parce qu'il y aura à la fois du soleil et la richesse du sol.
Parce qu'il y a des échanges entre deux.
Non,
des
avec des arbres.
Voilà. Et les arbres, parce que j'ai vu ça dans les bouquins, moi je savais pas que par exemple une rangée de peupliers, ça joue un effet de miroir par exemple. Toutes les feuilles vont répercuter la lumière, elles vont être renvoyées, ceci sur le... Donc c'est une zone très lumineuse par exemple. Donc les journées par exemple qui manquent de lumière, proche d'une haie de peupliers, ça sera beaucoup plus lumineux. Bon, pour une autre raison, il y a des échanges qui se font entre les arbres, etc. Donc effectivement, la notion de lisière est très importante dans la nature parce qu'il y a des. Échanges qui se font.
On ne peut pas cultiver sous les arbres.
Alors, ça dépend quel arbre.
Dans mon jardin, j'ai des arbres fruitiers et
bien.
J'ai pas beaucoup de place, donc j'aime bien cultiver en dessous. Quoi.
Mais ça marche.
Plus ou moins.
Bon. Il ne faut pas que l'ombre.
Des fois, il y a trop d'ombre.
Le café, le cacao, mais bon, ça va pas marcher.
On ne sait jamais dans le jardin.
Ah oui, voilà.
Vous pouvez créer ce qu'on appelle la forêt jardin. Ça, c'est vraiment. Ça se développe, donc, différents étages, donc vous avez les vivaces, les légumes vivaces, je sais, on va dire. Vous avez des petits fruitiers, framboisiers, ouvriers, tout ça. Et l'étage supérieur, vous avez encore des fruitiers, pommiers, etc. Plus grand. Donc même sur un petit espace, vous utilisez toute la hauteur en fait de l'espace. Alors il faut effectivement qu'il y ait suffisamment de lumière, pas rapprocher trop les arbres, pour quand même que la lumière puisse arriver. Ça c'est... C'est super intéressant en agroforesterie. Moi-même, j'essaye de la planter un peu sur une petite partie parce qu'il y a un endroit. Alors, j'ai planté des pommiers. Pour l'instant, ils sont effectifs, donc j'ai aucun problème effectivement à cultiver des légumes entre les pommiers. Je pense que je pourrais le faire parce qu'ils sont quand même assez espacés. Hein, j'ai 5 mètres, je crois, 6 mètres entre les deux rangs de pommiers. Je pourrais, je pense, continuer à cultiver des légumes sous ces pommiers. On peut très bien le faire, mais il ne faut pas que ce soit une ombre trop dense.
Et puis, autrefois, moi, je sais, mes grands-parents, j'ai cultivé plusieurs légumes dans la même terre. Quoi.
Et dans le même ordre.
En associant des légumes.
Oui, c'est-à-dire, par exemple, ils semaient le maïs, ils grandissaient, puis après, ils mettaient les haricots, les petits pois, qui grimpaient à travers le maïs.
Ah, oui, ben ça, j'ai essayé ça. Oui. Oui, c'était une pratique.
Et ça marche bien.
C'est bien, voilà, de servir. Associer les plantes au service de maïs qui va servir de tuteur aux haricots. Et donc, un peu dans cette idée-là, il y a la.
Il y a d'autres associations de plantes possibles.
Alors, dans cette même idée, on peut rajouter la courge, puisque apparemment, les Mayas associaient ça, ils appelaient ça les trois sœurs, c'est-à-dire associer la courge, le haricot, le maïs. Donc, le haricot qui sert de tuteur, le maïs qui sert de tuteur, le haricot. Alors, quel est l'intérêt du haricot?
C'est un anglais.
Oui. Très bien, il apporte de l'azote, effectivement. La question des légumineuses est très, très intéressante. Hein. Donc, ça veut dire toutes les légumineuses, alors, d'autres plantes que les légumineuses, mais toutes les légumineuses, haricots, pois chiches, pois, fèves, etc., elles ont une particularité, hein, c'est qu'elles vont fixer sur leurs racines, elles ont des petites boules, des petites nodosités. Et sur ces nodosités, les bactéries vont fixer l'azote de l'air. Donc, pas besoin d'azote dans une terre où vous allez mettre des feuilles.
Mais moi, l'an dernier, j'ai essayé de cultiver des haricots sous du maïs. Et j'ai l'impression que le maïs m'a bu tout au long et que mes haricots, ils ont peiné.
Ah oui, après, oui.
C'est possible, ça?
Oui,
parce que la récolte.
Parce que le maïs est aussi gourmand.
Alors peut-être,
oui,
c'est
dans
les régions où il y a beaucoup d'eau. Dans les Andes, là, ils associaient parce que ça devait beaucoup être. Il pleuvait beaucoup. Quoi.
Sans doute, il faut arroser plus.
Oui.
Et donc la troisième, la courge qui profite, peut profiter aussi un peu de l'ombre. D'autres Après, il y a les associations de légumes qui sont plutôt, comme on dit, c'est des légumes amis qui vont mieux pousser ensemble.
Oui,
voilà, qui sont très connus. Ou un légume qui va éloigner les parasites de l'autre.
Ouais.
Donc l'oignon, et la, l'oignon, le poireau et la carotte, c'est très connu. Pas trop bien qu'il y ait, mais j'ai jamais eu problème de, pas trop de problème de. Enfin, mousse de l'oignon, je ne l'ai jamais vu. Et, a priori, l'association oignon, mais il faut le faire de façon quand même assez. Genre un rang d'oignon, un rang de carotte peut-être, et là a priori ça marche. Parce qu'après voilà, il y a tous les ravageurs qui vont venir effectivement. Donc quand on n'utilise pas de produits effectivement phytosanitaires, etc., c'est parfois un peu compliqué.
Vous n'utilisez aucun produit
Alors, je ne dis pas aucun, mais c'est faux, mais le moins possible. Produits, donc j'utilise. Moi j'ai la chance d'avoir. Après, c'est. Produits, plus aussi les produits naturels. Hein. Donc par exemple, j'ai de la prêle à côté, c'est une jaune marécageuse. Et la prêle, c'est en fait des décoctions ou du purin, c'est très intéressant pour renforcer les défenses des plantes. Retarder, souvent en prévention, pour tout ce qui est champignons, mildiou, tout ça, la prêle a apparemment une certaine efficacité. Donc, très bien, oui. Deux, je note. La silice, donc la prêle contient de la silice, qui est justement très intéressante à ce niveau-là. Après, les associations, ben c'est, on parle des légumineuses, justement. Vous pouvez très bien faire pousser au pied, de, non loin de fèves, un légume qui va en profiter. Hein. La salade, par exemple, ça peut en profiter, oui. Puisque la fève va donc puiser l'azote de l'air. Ensuite, la mettre à disposition, effectivement, au niveau des plantes autour, elles vont en profiter aussi.
Vous faites une rotation? Ah oui, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire de faire des rotations?
Ah oui, parce que sinon vous allez avoir. Ah bah oui, sinon, vite avoir des maladies qui vont. Le choix, là, c'est vrai que je vais agrandir la parcelle, c'est notamment parce que là, j'étais vraiment coincé au niveau rotation. Dès que c'est vrai que parfois j'ai des maladies, problème sur les fèves. Assez costaud, mais j'ai un problème. Et, il va falloir pendant 5 ans que je ne peux remettre pas de fèves sur la même parcelle.
C'est quoi des pucerons, c'est quoi?
Non, c'est on appelle la pourriture grise, c'est un champignon. Ah. Parce qu'il a plu tout le mois de janvier, et du coup, là, les fèves ont attrapé sur ce champignon. Et après, les moyens de lutte, bah, parfois c'est enlever le feuille à feuille, hein, vraiment, c'est manuel. Hein, donc ça, c'est les fèves. Le milieu des tomates, c'est souvent ça, on enlève le feuille à feuille, il y a tout ce qui atteint, on enlève les feuilles du bas, etc. Alors, l'an dernier, j'étais obligé d'utiliser un peu de boulis bordelaise sur les tomates, parce que sinon, je n'en aurais pas eu. Et si je peux ne pas le faire, je ne le ferai pas.
Vous les semez quand, les fèves? Non, je vous demande ça, parce que moi, la première année où j'ai semé des fèves, une voisine âgée, quoi, ils ont un grand jardin, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as semé les fèves au début du printemps? C'est pas là qu'il faut les semer, il faut que tu les sèmes à l'automne.
C'est le mieux.
Et c'est vrai que ça a mieux marché.
Oui. Ouais. Mais on peut aussi. Moi,
mais c'était par rapport aux pucerons, hein, c'était pas la pourriture.
Enfin, début du printemps, oui. Ah oui, pour les pucerons, c'est mieux de les semer à l'automne, parce que les pucerons, ils arrivent quand même en mai ou... Ouais. Pour les pucerons, c'est mieux, mais vous pouvez très bien avoir des fèves. Alors, en février, vous pouvez semer des fèves en février. Moi, j'en ai semé il n'y a pas très longtemps, là, pour en avoir un peu plus, comme pour bien être malade. L'idéal, c'est effectivement, tout ça, vous pouvez semer des fèves, c'est le mieux.
Et par rapport à la pourriture grise, ça ne joue pas?
Par rapport à la pourriture grise, elle peut arriver en hiver, mais elle peut aussi, j'ai des exemples, elle est arrivée aussi plus tard. Il faut, pour éviter, il ne faut pas trop les serrer, il faut plutôt les espacer. Donc si vous les mettez tous les 10 cm, c'est un peu serré, vous espacez un peu plus dans ce cas-là. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de pluie trop souvent.
Parce que l'année dernière.
Oui, ça va.
Par rapport à certains insectes qui attaquent certaines variétés, tu as des plantes qui peuvent les détourner.
Oui, 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 les plantes. Je sais, la tanaisie apparemment est un répulsif naturel pour beaucoup d'insectes. La tanaisie, mais il faut en pendre beaucoup, etc.
C'est quoi ça?
C'est une plante haute comme ça, avec des fleurs jaunes un peu rondes. Ça, mais c'est une forte odeur très forte. Hein. Ça, c'est un répulsif La rue, je pense. L'absinthe aussi, l'absinthe, ils n'aiment pas ça.
Non, après, il y a aussi des plantes qu'ils aiment et ils vont justement là, sur celle-là pour.
On peut avoir des capucines pour détourner les pucerons. Ils aillent sur les capucines plutôt que sur. Et en permaculture, on essaie de ne pas intervenir trop vite. Par exemple, hop, je constate qu'il y a des pucerons sur mes feuilles. L'arme, c'est le savon noir qui marche très bien, c'est bien dilué, c'est très efficace. Le problème du savon noir, c'est qu'il va pas seulement tuer les pucerons, il va tuer d'autres insectes aussi. Donc, il y a ce que Fukuoka appelait, lui, le non-agir. Donc ça, c'est un bouquin que je vous recommande, c'est vraiment un très bon bouquin. Alors lui, c'est un japonais, Masanobu Fukuoka. Masanobu, je vais passer le bouquin. Donc lui, son cas est très intéressant parce qu'il travaillait aux douanes et il s'occupait de maladies des plantes, donc, petit travail tranquille, tout ça. Et puis, son temps libre, il travaillait dans un laboratoire et donc il s'intéressait aux plantes, il était devenu très pointu. Puis il est tombé malade, il y a une sorte de crise un peu mystique, etc. Et puis il s'est rendu compte, il s'est dit, mais finalement je ne sais rien du tout et l'homme ne sait rien du tout. Et du coup, il a complètement changé de pratique. Et du coup, il est parti à la campagne et il a commencé à créer ce qu'il appelle, lui, l'agriculture sauvage. Donc c'est encore plus extrême que la permaculture, on va dire. C'est très intéressant. Il montre aussi qu'il y a des rendements qu'on peut obtenir donc sans labour du sol, en associant des cultures, etc. Je ne sais plus pourquoi je parle de tout. Le non-agir, voilà. Donc effectivement, plutôt que d'agir trop vite, on observe. Moi, si je vois des pucerons, je regarde ce qui se passe. Si je vois des coccinelles, c'est plutôt bon signe. Il y a d'autres, et puis il n'y a pas que la coccinelle, hein, il y a le cirf, la larve et l'insecte mangent beaucoup, beaucoup de pucerons. Donc, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin.
Je ne sais pas le reconnaître.
Cirf, c'est comme une abeille, mais une tête de mouche, une guêpe avec une tête de mouche. C'est pas du tout, hein.
Ça s'écrit comment?
S-Y-R-P-H. Donc ça, vous en voyez, c'est peut-être sans les voir, hein. C'est comme deux yeux de tête de mouche, avec des gros yeux là, et puis comme un corps de guêpe. Donc ça, c'est très bien pour les pucerons. Donc si les pucerons ne me font pas trop de dégâts, moi je laisse faire, parce que si je les tue trop vite, ça ne va pas faire venir les prédateurs. On veut mieux attendre que les prédateurs viennent, et après, si effectivement il y a trop de pucerons, bon là on agira, on mettra un peu de savon noir. Donc voilà, il faut s'adapter et essayer de ne pas agir trop vite. Alors la même chose pour ce qu'on appelle, alors certains appellent encore les mauvaises herbes, on appelle aussi les adventices, bon. Alors, effectivement, il y a des gens qui aiment bien avoir zéro mauvaise herbe, et même en agriculture, hein, dans les marchés, ils font la chasse aux mauvaises herbes. Je pense que c'est un tort, parce que la mauvaise herbe, elle a pas mal aussi d'intérêt. Hein. Alors il faut bien sûr pas se laisser envahir, mais il faut savoir la contenir. Quels sont les intérêts de la mauvaise herbe? C'est qu'elles vont aussi contribuer à couvrir le sol autour des plantes. Hein. Donc si elles ne sont pas en excès, ce n'est pas un problème, parce qu'en plus, elles vont retenir l'eau aussi, les mauvaises herbes. Qu'il y ait des herbes autour des plantes que vous cultivez, vous n'ayez pas prévu, si elles ne sont pas à l'excès, il n'y a aucun problème, et même il vaut mieux les laisser. En bordure, dans les allées, c'est bien qu'il y ait des herbes, en plus il y a certaines qui vont fleurir, qui vont faire venir les abeilles.
Puis elles se feront manger par les limaces aussi, les escargots.
Oui, on peut. Oui, j'aimerais bien.
La nourriture.
Oui, j'aimerais bien que les escargots ils soient plus sélectifs et qu'ils aillent plus sur les problèmes, ouais, ça ne font pas la différence. Je préfère souvent les épinards. Hein. Alors il y a les fleurs, On s'arrête quand vous voulez.
Comment vous faites pour contenir les limaces et les escargots? Non, parce que nous, on a une agriculture, la pauvre.
C'est un des inconvénients, je dirais, de la permaculture, c'est que ça fait proliférer ces bêtes.
Ça fait proliférer.
Et oui, puisque comme le sol est tout le temps paillé, là, elles ont un abri naturel, elles sont à domicile, cachées sous les feuilles. Et
pas de prédateurs.
Alors, il faut introduire des prédateurs. Donc, je reviens à l'idée d'écosystème, un système complexe. Donc, elles ont quand même pas mal de prédateurs, ces petites bêtes.
Les hérissons.
Les hérissons. Les crapauds. Donc, si on a un plan d'eau, c'est parfait. Les toutes petites bêtes qu'on appelle les carabes, si certains ont vu, sont jolies, un peu violacées parfois, sont des petits scarabées qui mangent aussi les bébés. Je crois que la musaraigne s'attaque aussi au. Le livore s'attaque aussi aux limaces. Alors certains permacultures introduisent le canard couvreur indien. C'est rigolo, hein. Canard couvreur indien, allez voir si
c'est mignon.
C'est mignon, ils sont debout presque. Hein.
Debout, ouais.
Alors eux, ils sont très, très forts pour. Alors faut pas faire venir une poule, effectivement, parce qu'elle va tout bouffer, la salade et tout. Mais apparemment, les canards couvreur indien est assez sélectif. Et justement, lui, il va s'intéresser beaucoup aux limaces, aux escargots. Je n'ai pas fait l'expérience pour un plan d'eau, mais ça peut être une possibilité aussi d'intégrer.
Ah, il y a plein d'eau là.
Oui, je pourrais. Peut-être que j'essaierai. Alors, les plantes compagnes, la bourrache. Donc ça, c'est une plante très mellifère. Donc là, bon, c'est frisé aujourd'hui aussi, donc pas trop en fleurs. C'est une très belle plante, hein, ceux qui la connaissent. Qui a l'avantage ou les avantages de se multiplier très très vite sur le terrain. Il faut être très vite envahi. Mais ça peut être aussi intéressant parce que ça peut servir d'engrais vert. Hein. C'est un très bon engrais vert, il y a de la potasse. Donc à la limite, laissez-vous envahir et puis après, vous faussez ça, vous l'incorporez au sol. Ça vous fait un engrais vert naturel. Et l'autre intérêt, c'est extrêmement mellifère. Hein. Il manque de plus en plus d'abeilles. Dès qu'il y a de la bourrache, les abeilles sont très vite. Hein. Elles sont là. Voilà. Des plantes aussi. Donc il faut intégrer des fleurs aussi parmi les légumes. Ça, c'est très important. Donc pailler le sol. Donc, vous voyez, là, c'est du BRF justement sur de l'ail. Parfois laisser pousser une plante pour récupérer les graines aussi. Hein, donc dans l'idée qu'on va être dans une autosuffisance, l'idée c'est aussi de peut-être d'acheter le moins possible de graines, effectivement, de réutiliser ses propres graines. Donc il y a deux intérêts, ça ne coûte rien du tout. Hein. Et l'autre intérêt, c'est que effectivement, en réutilisant ses propres graines, on va créer des semences qui vont s'adapter à notre sol. Hein. C'est ce qui se passait autrefois dans l'agriculture ancienne, c'est-à-dire qu'ils avaient du blé. On a perdu beaucoup de variétés de blé, des choses comme ça, mais ils avaient du blé qui était adapté à telle terre, tel endroit, etc. Et là, maintenant, on est tout standardisé et c'est plus compliqué du coup. Voilà, donc ça, c'est les feuilles de roquette, les fleurs de roquette. Donc ça, il faut que c'est un blé, je pourrais récupérer. Bon, hop. Très rapidement, quelques outils. Alors, on est très peu mécanisé, mais il y a parfois des outils vraiment qui ne sont pas motorisés, mais très très performants. Ça, c'est un semoir très très efficace. Voilà. Et un autre semoir, donc celui-là encore plus rudimentaire, vous voyez qu'on peut semer 4 rangs, des rangs justement très très rapprochés. Et donc justement en permaculture, on a un espace petit, on va essayer de rapprocher effectivement les légumes. Ce qui n'est pas recommandé dans le méthode de jardinage.
On peut s'approcher. Les
centimètres en passe. Voilà, ah oui, on peut passer à pied tout partout. Donc effectivement, on peut s'approcher de. Et donc ça veut dire qu'on peut semer, ce semoir permet de semer très serré. Alors l'inconvénient, c'est qu'effectivement, parfois pour certaines maladies, ça favorise les maladies. Hein. Par exemple, moi, mes carottes que je sème sous serre, sous abri, je sème, là, c'est des 5 cm. Donc ça, c'est pas du tout conseillé dans le jardinage.
Ça se trouve où, ça, ce genre de matériel?
Alors ça, je l'ai acheté sur Internet, fabriqué en Suisse, c'est le semoir Semmer, S-E-M-B.
Sur Internet.
Oui. Et donc, ça permet de montrer, c'est un outil rudimentaire, ça permet de gagner beaucoup de temps, et semer beaucoup plus serré que dans un jardinage plus classique.
Les viticulteurs qui font brouter l'herbe par les brebis.
Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah mais très bien, voilà, associer les animaux, donc c'est les brebis ah, oui. Parmi les vignes.
Il y a
très
risque des
les oies, etc. Bon, là, je pense que j'ai fait un tour pour faire un tour assez global. Peut-être vous avez d'autres questions.
Mais on va continuer après.
Après, oui, oui, oui. Oui, parce
que on va attendre.
Oui, 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 après, la comme ça. Oui, 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 très bien.
Ça marche. Bon, vu qu'on te remercie déjà.
Ben, merci à vous.
Pour ce moment, vous avez éclairé.
J'ai essayé d'être assez.